15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin généraliste et ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'arthrose. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre cette maladie, avec notre invité le professeur François Ranoux, chef du service de rééducation de l'hôpital Cochin à Paris. Nous ferons le point sur les traitements efficaces pour soulager les malades ou au moins pour ralentir l'arthrose. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des punaises de lit, comment reconnaître leurs piqûres et surtout, quels sont les moyens pour s'en débarrasser. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler aujourd'hui d'un très gros bobo, hein, pour une fois, puisqu'on fera le point sur les signes qui doivent faire penser à un AVC, des symptômes pas toujours connus malheureusement. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question du plaisir en solitaire, parfois plus intense que lors des rapports sexuels à deux. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Bastien, 42 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une question à vous poser. J'ai mon fils de 8 ans qui ronfle et depuis un moment, j'ai l'impression qu'il s'arrête de respirer. Et je me posais la question à savoir si ça existait l'apnée du sommeil chez les enfants. Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors c'est une très bonne question ça, un enfant qui ronfle, bon c'est vrai quelques jours parce qu'il a un rhume ou une rhinite, peu importe, ça c'est pas très grave, mais un enfant qui ronfle de manière chronique et peut-être fait des pauses respiratoires, ça il faut s'en soucier hein Jimmy.
Oui et surtout lorsqu'il fait des pauses respiratoires, ça peut être révélateur de l'apnée du sommeil, c'est une pathologie pédiatrique qui est sous-diagnostiquée du coup chez les enfants, on estime à 10% que les enfants de 3 à 6 ans qui sont des ronfleurs chroniques. Donc ronflement ne veut pas dire sommeil de bonne qualité. Ça veut dire
obstacle. Parce que souvent on dit il ronfle, ça veut dire qu'il dort bien profondément.
Non, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle à l'air qui passe, donc ça fait ce bruit. Et donc forcément, il y a un risque d'apnée du sommeil qui aura des conséquences sur les troubles de l'apprentissage, sur l'anxiété, sur le niveau de fatigue. Donc c'est des choses à prendre avec un grand sérieux.
Alors un enfant qui ronfle et qui a donc, vous l'avez dit, une mauvaise qualité de sommeil, est-ce que c'est forcément du coup le signe d'une apnée
non,
du sommeil?
Alors il faut écouter si l'enfant fait des pauses respiratoires lorsqu'il dort. Ça veut dire que dans ces cas-là, il faut absolument consulter. Mais un enfant qui ronfle, globalement, ronfle car il y a un obstacle. L'obstacle, souvent, il est situé dans la bouche. Donc ça peut être les amygdales qui sont trop grosses, les végétations ou parfois des petites malformations au niveau de la voûte palatine ou des dents. Donc à ce moment-là, il faut aller chez l'ORL, en parler au médecin généraliste ou au pédiatre. En clair, il faut consulter.
Et quand on consulte comme ça, donc l'ORL ou le pédiatre, il y a des examens qu'il faut passer peut-être pour confirmer ou pas ben justement les diagnostics
déjà,
dont vous venez de parler.
On ouvre la bouche, on regarde. Si on voit des amygdales volumineuses, on fait un examen buccal assez rapide, indolore, ça marche très très bien. On peut déceler la cause et à partir de ce moment-là, on peut adapter un traitement. Et le plus fréquent, on met un petit appareil orthodontique parce que les enfants ont une petite malformation au niveau du palais et des dents. Et puis ça rentre dans l'ordre.
Ah oui, donc on élargit finalement un petit peu le palais. Souvent, c'est parce qu'il est trop petit, hein, je
Exactement,
crois. Exactement,
trop petit, trop étroit. Et donc du coup,
on élargit,
l'air passe mieux et comme l'air passe mieux, on ronfle plus et on ne fait plus d'apnée.
Bon, c'est super. Donc il y a des traitements quand même pour soigner ces ronflements de l'enfant. Hein,
Exactement.
Vraiment.
Donc on a parlé des traitements orthodontiques, mais on peut aussi parler du fait d'enlever les amygdales lorsque les amygdales sont très volumineuses et se touchent sur la ligne médiane, c'est-à-dire que on a en gros deux boules qui se touchent. On les enlève. On peut aussi enlever les végétations. Parfois, on peut prescrire un traitement à base de corticoïdes durant quelques jours. Bref, il y a des traitements. Il suffit de consulter.
Donc on va consulter effectivement avec les enfants ronfleurs chroniques. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur cette fois. C'est Philippe, 53 ans, on l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai récemment eu l'information d'un ami comme quoi il avait un cancer du sein. C'est un homme évidemment. Du coup, je m'interroge, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que, voilà, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut se palper comme le font les femmes? Merci de me répondre.
Alors Jimmy, effectivement, le cancer du sein chez l'homme, ça existe, ça c'est vrai, mais on est d'accord, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Hein.
Oui, les principales victimes sont les femmes, et le cancer du sein chez l'homme, c'est moins de 1% du cancer des seins. Mais moins 1%, ça ne veut pas dire zéro, c'est-à-dire que ça existe, et donc il faut essayer de trouver des petits signes, justement, pour consulter et éviter de laisser traîner.
Alors justement, les symptômes de ce cancer du sein chez l'homme, c'est quoi en fait?
Finalement, c'est un peu les mêmes que chez la femme, c'est-à-dire qu'on va développer une petite boule, une masse, une tuméfaction au niveau des seins, et donc il suffit de palper, c'est indolore souvent, parce qu'on pense que ça doit être douloureux.
Ah oui, cette boule, elle fait pas mal, forcément.
Exactement, elle est plutôt bien limitée. Il faut aussi surveiller l'aspect des tétons, un mamelon qui serait rétracté, qui aurait une couleur bizarre.
Oui, c'est exactement comme
consulter.
Chez les femmes.
Et puis, il y a un truc tout bête aussi, il faut aussi se palper les testicules, parce qu'on peut avoir une même boule au niveau du testicule, ça peut être révélateur d'un cancer. Bref, il faut se toucher, il n'y a pas de mal, et surtout, ça peut éviter de laisser traîner les choses.
D'accord, et chez les hommes, est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour, qui pousseraient à avoir un cancer du sein de manière plus fréquente?
Alors, c'est plus fréquent lorsqu'on avance dans l'âge. Après 60 ans, c'est plus fréquent. Il y a aussi des facteurs héréditaires. Si dans votre famille, vous avez eu des cancers du sein chez votre sœur, votre tante, votre maman, vous avez plus de risques. Et puis, dans 15% des cas, il y a une mutation génétique d'un gène qui s'appelle le BRCA2 qui donne une prédisposition forte. Et donc, à ce moment-là, on fait des enquêtes et là, on traite à ce moment-là.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Philippe qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des punaises de lit, comment savoir qu'on est infesté chez soi et surtout, comment s'en débarrasser. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur François Ranoux, rhumatologue et chef de service à l'hôpital Cochin à Paris, pour parler des traitements efficaces contre l'arthrose. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre cette maladie. Plus de 10 millions de Français sont concernés. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le rhumatologue François Ranoux, pour parler d'arthrose. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des punaises de lit. D'abord, comment on les reconnaît, ces punaises?
Alors, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des punaises de lit du fait de la mobilité des voyageurs. On loue des appartements et donc forcément, il y en a beaucoup plus. Il y en a énormément sur Paris et dans les grandes villes. Fini l'époque où on pensait que c'était que chez les pauvres et que c'était dans des milieux précaires, mais on en a dans les hôtels, dans les hôpitaux. Les punaises de lit, c'est simple, c'est des petits insectes qui sont plutôt ronds, ovales, qui n'ont pas d'ailes, donc ne volent pas, et qui se déplacent assez rapidement, évitant la lumière du jour, et c'est pour ça qu'on les voit pas trop en général, elles sortent plutôt la nuit.
Et elles se nourrissent de quoi, ces punaises de lit?
Comme les vampires, elles se nourrissent de sang humain.
Barque.
Et donc elles ont un petit appareil très bien fait, un peu comme les moustiques, qui consiste déjà à vous piquer une première fois pour anesthésier.
Elles se nourrissent de nous, quoi, en fait.
Oui, nous anesthésie. Puis après, elles nous injectent un anticoagulant pour fluidifier le sang et aspirer le sang. Et à ce moment-là, on a cette éruption qui est rouge, douloureuse, qui gratte énormément. Et puis surtout, on a plein de boutons de la tête aux pieds.
Voilà, mais elles se cachent où alors, ces punaises de lit? Dans le lit, comme leur nom l'indique?
Un peu partout, exactement. Oh, bah oui. Mais aussi dans les fentes des planchers, dans les matelas, dans les sommiers, dans les rideaux. Elles sont un peu partout. Elles évitent la lumière du jour. Donc, elles sont plutôt la nuit. Et finalement, on peut les voir parfois, les reconnaître, lorsqu'il y a des petites traces rouges ou finalement comme des traces de stylo plume. Vous savez, quand vous prenez un stylo plume et que vous le balancez, ça fait des petites traces noirâtres. Eh ben, ça peut être signe de punaise de lit.
Ça, si on voit ça sur les draps.
Exactement. Si vous voyez ça à ce moment-là, c'est que vous avez peut-être infesté. Surtout, vous avez été piqué.
Et comment on reconnaît justement la piqûre? Elle ressemble à quoi, comme une piqûre de moustique?
C'est moins inflammatoire qu'une piqûre de moustique, mais il y en a beaucoup plus. Parce que le moustique, finalement, va vous piquer 2-3 fois. Là, vous avez surtout les zones exposées. Donc, si vous avez un gros pyjama, vous êtes un peu tranquille.
Les pieds, peut-être.
Mais vous faites un peu canarder tout au long d'une ligne qui fait 10-15 piqûres.
Ah,
ça
oui.
gratte énormément. Et puis, finalement, toute la famille est infestée.
Alors, surtout, comment on s'en débarrasse, pitié?
Alors, il y a un nouveau traitement parce qu'il existait à l'époque, enfin, jusqu'à maintenant, il fallait condamner la pièce, faire venir un spécialiste.
Ouais.
Ça durait des jours, des traitements très toxiques.
Des gaz et tout.
Exactement.
Ça,
ouais. Alors là, il y a un traitement qui semble marcher à base d'huile d'eucalyptus, un petit spray. On fait ça durant 15-20 minutes et on est tranquille pendant plusieurs mois. Les hôteliers s'en équipent, les hôpitaux et les particuliers aussi. C'est inodore, c'est inoffensif. Donc si on a des enfants à la maison, on peut le faire. Et ça marche très bien et ça évite surtout de faire intervenir quelqu'un. Ça coûte de l'argent et donc le spray, c'est bien plus efficace.
Bon, surtout, merci pour ces conseils pour s'en débarrasser. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le professeur François Ranoux. Il est rhumatologue et chef de service, donc le service de rééducation à l'hôpital Cochin à Paris.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Ranoux.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'arthrose. D'abord on va faire un petit point de contexte quand même. Cette maladie c'est l'une des plus fréquentes en France. Il y a combien de malades grosso modo?
Il y a probablement entre 5 et 10 millions de patients qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont mal, et des gens qui ont la maladie sans pour autant avoir mal, on est plus aux alentours, entre 10 et 15. Donc, ouais, donc c'est largement la maladie la plus fréquente.
Ouais, donc ça fait quand même du monde, effectivement. Et puis c'est une maladie qu'on a plutôt en vieillissant, enfin, vous allez dire si je me trompe. Donc on imagine qu'avec le vieillissement de la population, ça ne devrait pas s'arranger, il va y en avoir encore plus.
Il y a deux grandes sous-populations. La première, c'est les patients âgés. Et la deuxième, qui elle, c'est beaucoup plus, c'est les gens jeunes qui ont fait beaucoup de sport avec des traumatismes sportifs à répétition. Donc il y a vraiment ces deux catégories.
Juste un petit rappel avant de commencer quand même cette émission. L'arthrose, cette maladie, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps?
En fait, c'est une maladie de l'articulation qui atteint à la fois l'os, le cartilage, le tissu synovial, c'est-à-dire tous les tissus. Et ce tissu, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il se dégrade, c'est-à-dire l'os essentiellement et le cartilage, et le tissu synovial, lui, s'enflamme. Mmh. Donc on a un mélange d'inflammation, mais également de dégradation, voire de destruction. Et puis il y a une dernière réaction qui est une réaction de construction d'os. Et donc l'os, pour réagir, il va construire de l'os. C'est ce qui va faire les fameux becs de perroquet.
Mmh. Voilà. D'accord. Jimmy ?
Et à une époque pas si lointaine, j'avais des patients qui prenaient des médicaments anti-arthrosiques, justement, pour prévenir l'arthrose du genou. Ces traitements ont été déremboursés parce que finalement, ça ne marchait pas. Et donc finalement, il n'y a aucun traitement contre l'arthrose. On peut pas le prévenir.
En fait, ce n'est pas vrai que ça ne marchait pas. C'est que ça n'avait pas d'effet structural, c'est-à-dire ça n'avait pas d'effet sur la structure. C'était des médicaments à visée symptomatique. Et ça marchait.
Ça soulageait les douleurs, par exemple.
Ça soulageait les douleurs, ça améliorait la fonction. Après, c'est des décisions plus politiques en fait que liées à la santé publique. On a décidé de les dérembourser.
Mais vous pouvez toujours les prescrire. D'ailleurs, vous le faites toujours.
Exactement. Ouais. On peut toujours les prescrire
mais
aujourd'hui.
C'est à la charge du patient.
Mais c'est à la charge du patient. C'est soit des médicaments par la bouche, soit des médicaments par voie injectable. L'acide hyaluronique, par exemple.
Ça non plus, c'est pas remboursé, je crois.
Non, ça n'est plus remboursé.
En gros, il n'y a plus rien là, en termes de médicamenteux, on va dire.
Aujourd'hui,
de remboursé,
il y a le paracétamol, les anti-inflammatoires, les injections de corticoïdes. Voilà ce qui est remboursé aujourd'hui.
Alors, on n'a pas terminé avec vous, professeur Ranou. Dans un instant, on va continuer à parler des traitements qui sont efficaces contre l'arthrose. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, puisqu'on a compris qu'on n'a pas aujourd'hui de médicaments pour guérir l'arthrose définitivement, on va passer au moyen peut-être de ralentir au moins cette maladie. Et vous verrez que ça passe pas forcément, voire pas du tout, par des médicaments. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours. Et puis, notre invité, le professeur François Ranou, rhumatologue et chef du service de rééducation à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, il y a quelques minutes, professeur, vous nous avez dit qu'on n'a rien aujourd'hui, finalement, en termes de médicaments, qu'on prendrait par la bouche, pour guérir l'arthrose. Par contre, on peut ralentir sa progression. Et le seul moyen, il ne passe pas du tout par les médicaments.
Non, là, vous abusez un peu. Ce n'est pas le seul moyen. Il y a deux grands moyens, les moyens qu'on va appeler non pharmacologiques, les moyens pharmacologiques. Et dans les moyens non pharmacologiques, il y a deux grandes choses. La première, c'est soit de ne pas grossir, soit de maigrir. Ouais. En tout cas, le poids est fondamental, surtout pour l'arthrose du genou, mais également paradoxalement pour l'arthrose digitale, chose qui est un peu bizarre. Ouais. Donc quand vous êtes obèse, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une arthrose digitale que si vous êtes à un poids classique.
Mais ça, c'est prouvé dans des études. On voit que quand ils maigrissent, qu'est-ce qui se passe?
C'est prouvé.
Quand on fait maigrir une personne obèse, il se passe quoi?
C'est prouvé. D'ailleurs, il y a des travaux, notamment français, où on a suivi des cohortes de super obèses, ces gens qu'on opère et qui vont perdre 60, 80, 100 kilos, qui ont des gonarthroses symptomatiques et en maigrissant.
Gonarthrose du genou, c'est
voilà,
ça.
Voilà, arthrose du genou, excusez-moi, et qui deviennent asymptomatiques.
Oui, alors on explique comment, c'est quoi le mécanisme entre je perds de la graisse et j'ai plus d'arthrose au doigt.
Oui. Alors, pour ce qui est du genou, en tout cas, c'est clair que c'est la contrainte,
ouais, ça
essentiellement.
Le poids fait que.
Et puis, en fait, quand vous êtes en surcharge pondérale, c'est une maladie inflammatoire à minima, micro-inflammatoire, et il se trouve que cette inflammation à minima, eh bien, elle a un certain tropisme, c'est-à-dire que cette inflammation, elle aime bien les articulations et elle va dans l'articulation et il suffit qu'elle active le tissu
l'obésité,
synovial.
L'obésité, la graisse,
tout ce qui est métabolique
de l'inflammation.
Exactement, c'est plutôt pro-inflammatoire.
Jimmy ?
Et donc, dans les traitements non médicamenteux, là, on a parlé du poids, mais il y en a un autre, c'est le sport, l'activité physique.
Alors,
est-ce qu'on peut parler du coup de sport médicament ? Parce qu'on dit souvent aux patients, faites du sport, mais sans trop leur expliquer pourquoi.
Ouais.
Alors, pourquoi il faut faire du sport dans l'arthrose ?
Alors, améliorer la forme physique générale des patients, ça améliore le vécu de toutes les maladies, on le sait. Ce n'est pas que l'arthrose. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu non spécifique. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est plutôt rééducation. Parce que quand on dit activité physique, on mélange. Est-ce que c'est du sport ? Est-ce que c'est le kiné ? Est-ce que c'est le coach ? Est-ce que c'est... Donc il y a vraiment deux parties. Il y a une partie très sport, activité physique, et l'autre qui est plus rééducation. Où là, la rééducation, on va s'intéresser surtout à essayer de renforcer les muscles qui stabilisent les articulations, de faire ce qu'on appelle du travail proprioceptif, qui est un terme un peu barbare pour dire c'est neurologique, c'est si vous voulez d'essayer d'améliorer votre conscience de votre articulation,
corps, de comment ça bouge,
exactement.
Et tout ça, d'accord.
Et puis on va aussi renforcer les muscles qui diminuent les contraintes sur les compartiments douloureux. Donc voilà, donc on a vraiment ces deux grandes.
Après, et le sport en lui-même, vous disiez l'activité physique, alors, c'est quoi ? Il y a des sports en particulier qu'il faut faire quand on est arthrosique ?
Le problème, c'est que si moi je dis ça à mes patients vont me dire quel sport ?
Donc, bah
je leur dis, faites de la natation, je ne sais pas nager, du vélo, je n'ai pas de vélo, de la course à pied, je n'aime pas courir.
Bon, alors
donc,
il reste quoi ?
voilà, donc la seule solution, je leur renvoie la balle en disant le sport que vous voulez. Je leur dis, et pour rigoler, je leur dis tout sauf du parachutisme. Et donc, ça voulait être quand même, un volant de choix relativement important.
Et ça marche vraiment parce que vous dites, dans votre message à vous, c'est bon, les médicaments, la pilule miracle, ça n'existe pas. Bougez, si vous voulez aller mieux. Bougez, ok, mais vous avez eu des cas vraiment de patients qui se sont mis à bouger, qui vous ont écouté, qui n'ont pas fait du parachutisme et autre chose, et qui ont, je ne sais pas, par exemple, pris moins d'antidouleurs derrière, ça améliore.
Ah oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous voyez concrètement ?
Et puis ça a été montré dans un certain nombre d'études. L'activité physique permet non seulement d'améliorer la forme physique générale des patients, mais ça diminue la consommation médicamenteuse.
Ah oui.
Ça diminue également...
Moins d'antalgiques, d'antidouleurs,
moins d'antalgiques, ils vont moins chez le médecin, ils vont moins chez le kiné, ils sont beaucoup plus indépendants, et on arrive à ce qu'on a... Alors, il n'y a pas tellement de mots en français, mais ce qu'on appelle du self-management, c'est-à-dire le patient se prend en charge, et il est clair que, moi, ce que je dis toujours pour l'activité physique, de toute façon, et même d'une façon générale, pour tout ce qui est non pharmacologique, évitez tout ce qui est passif. Tout ce qui est passif ne marche pas, voire dans certains cas peut être délétère. Mais par contre, tout ce qui est actif et qui vient du patient, et l'activité physique, c'est typique, et ben ça marche et ça améliore. Ça améliore la douleur, ça améliore la fonction, ça améliore la qualité de vie. C'est ce qu'on demande dans une maladie non mortelle qui grève la qualité de vie, en fait.
Alors, professeur Ranou, on va poursuivre cette discussion dans un instant sur les autres traitements de l'arthrose. Vous restez avec nous, surtout, professeur Ranou.
Europe 1.
Dans un instant, on parlera notamment des orthèses et même de certains exosquelettes qui permettent à des patients qui ont de l'arthrose de faire du ski même sans souffrir, vous verrez. Et puis on se projettera un petit peu dans le futur aussi avec ces pistes en médecine régénératrice qui permettront peut-être de nous réparer et donc un jour d'en finir, qui sait, avec l'arthrose. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur François Ranou, rhumatologue et chef du service de rééducation à l'hôpital Cochin à Paris. Bon, il y a quelques minutes, professeur Ranou, vous nous avez parlé des bienfaits de l'activité physique pour stopper un peu cette maladie qu'est l'arthrose. Mais quand on a mal aux genoux, aux pieds, c'est quand même pas toujours évident de bouger. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais est-ce que les massages, par exemple, avec un kiné, ça peut vraiment aider, en tout cas pour les douleurs au moins ? Non, vous avez l'air sceptique, là. Hein.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est passif...
Ouais. Vous voulez qu'il bouge, vous.
Et tout ce qui est passif est, au mieux, je dirais, n'a aucun
placebo,
intérêt. Oui, au mieux, et au pire, c'est délétère. Donc non, aujourd'hui, le principe de la kinésithérapie, dans l'arthrose, en tout cas, ce n'est pas le massage.
Hein. Il faut aller faire de la rééducation chez vous.
Il faut aller faire
avec,
de la rééducation chez un kinésithérapeute.
Parce que là, c'est des traitements à visée biomécanique. On
m'explique,
ça veut dire quoi concrètement ?
C'est-à-dire qu'on va essayer, premièrement, d'améliorer la stabilité de l'articulation en renforçant les muscles. On peut pas.
On fait ça avec qui ? C'est qui les spécialistes qui nous font ça ? C'est des kinés, mais dans des centres de rééducation.
Pas obligé, ça peut être fait également en ville.
Ah oui, ils font ça. Mais c'est pas des massages, c'est de la.
C'est pas des massages. Alors, c'est vrai que. Et ça, c'est une habitude de la kinésithérapie, des kinésithérapeutes. Souvent, ils commencent un tout petit peu par masser.
Ça fait du bien,
mais
ça
tapouille. C'est une prise de contact physique avec le patient.
Qui est important.
Et ça, je ne suis pas du tout contre. Mais quand mes patients reviennent me voir en me disant qu'on leur a fait que des massages, ben là, je ne suis pas content.
Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien.
Jimmy ?
Et est-ce que les chaussures ont une importance, par exemple dans l'arthrose du genou ? Est-ce que les femmes qui portent des talons, il faut leur dire d'arrêter ? Les petites ballerines sans semelles, c'est mauvais ? En gros, est-ce qu'il faut mettre une bonne paire de running ? Même si on n'a pas beaucoup de style avec, au moins on peut soulager peut-être le dos ?
Bah, moi, c'est exactement ce que je propose à mes patients. Je leur dis semelle amortissante.
Ah ouais,
et
carrément.
Ça, vous trouvez ça dans n'importe quel
magasin de sport,
de sport ou en pharmacie ou chez le podologue. Et puis, sinon, des conseils de chaussage. En gros, il faut amortir. C'est tout. On a montré, finalement, pendant longtemps, on a prescrit, vous savez, des orthèses, donc des semelles avec un coin, soit extérieur, soit intérieur, fonction de la localisation de l'arthrose dans le genou. On s'aperçoit que c'est rare qu'un patient ait une arthrose pure d'un compartiment, en fait. Et donc, souvent, les patients ne sont pas très bien avec ça.
Donc, les orthèses, ça ne sert à rien, même les orthèses qu'on voit des fois, qu'on met sur les genoux, l'espèce de
genou.
Ça, c'est pas pareil.
Là, je vous ai parlé, excusez-moi.
Des pieds.
Orthèses. Plantaire.
D'accord. Et pour les autres,
d'accord. Alors les orthèses de genoux, alors ça, c'est encore autre chose.
Ça, c'est très utile.
Alors ça, c'est utile. Les simples genouillères, c'est utile parce que ça permet de diminuer un peu la douleur. Pour des raisons...
On ne sait pas trop pourquoi.
On ne sait pas trop. Peut-être proprioceptive.
Même chose avec celle qu'on met du dos, la ceinture lombaire.
Oui, un petit peu. Exactement. Et puis après, vous avez des orthèses, elles, beaucoup plus intéressantes, qui sont des orthèses dynamiques et qui sont intéressantes parce que elles vont avoir tendance à essayer de soulager le compartiment douloureux, qui est souvent le compartiment interne,
Souvent. Dans le genou, par exemple.
Voilà, ça se porte sous un pantalon. Et le gros intérêt aussi, c'est que ça permet
de
à des jeunes, vous savez, je vous ai parlé de cette catégorie de gens relativement jeunes, moins de 60 ans, qui ont une gonarthrose, parce qu'ils sont très sportifs, parce qu'ils ont eu... On est allé leur gratter le ménisque, parce que... etc.
Ouais.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer le sport. Ça leur permet de continuer le sport.
Avec des orthèses dynamiques. Donc
avec des orthèses dynamiques, on peut faire... Ça, c'est du grand appareillage. Donc ça ne peut être prescrit que par des spécialistes.
Donc par des rhumatologues, par exemple.
Médecins de médecine physique et de réadaptation, rhumatologues. Et sinon, ça peut également, à titre exceptionnel, être prescrit par le généraliste. Mais à ce moment-là, ça doit passer par une commission, et cette commission, elle se réunit trois fois par an.
Donc quand on a
l'arthrose
du genou avec ce genre d'équipement, on peut par exemple continuer à faire des marathons ?
Ah non.
Non, quand même
non,
pas.
Là je vais vous dire non. C'est pas vrai. Mais par contre, on est capable de jouer au tennis, on est capable parfois de reprendre le ski, on est capable de jouer au volley.
On peut faire beaucoup
de jouer au golf, par exemple.
Jimmy ?
Et c'est remboursé tout ça, finalement ?
Alors, c'est du grand appareillage, donc ça vaut un certain prix, hein. Ça vaut entre 700, entre 700 et 800 euros. Vous avez à peu près 80% qui est pris en charge par la Sécu et la mutuelle. Il reste en général à charge pour le patient, on va dire, entre 100 et 150 euros.
Ça va, c'est acceptable si ça permet de...
Cet ordre-là.
On en garde en plus quelques années, j'imagine.
Oui, exactement. Puis c'est fait sur mesure. C'est pas quelque chose qu'on achète chez le pharmacien comme ça. Non, c'est fait sur mesure par des professionnels qui sont des professionnels de l'appareillage, en fait.
En préparant l'émission, vous m'avez parlé aussi de ces exosquelettes. Alors quoi, par exemple, pour faire du ski, me disiez
Ça, c'est encore autre chose.
Ça ressemble à quoi, déjà? Parce qu'on
ne
le voit pas.
Ça n'est pas du tout... c'est pas remboursé par la Sécu, etc.
C'est le futur,
c'est pour les
peu,
sportifs. Pour les sportifs qui ont une arthrose du genou et qui veulent continuer à faire du ski, c'est uniquement pour le ski.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est un peu comme une orthèse articulée.
C'est
sauf
une jambe de Robocop.
Un petit peu. Et elle repose sur la languette arrière de la chaussure. Et donc, on est un peu en suspension. Et ça permet de diminuer à peu près de 30% le poids du corps sur l'articulation.
Là, c'est pour les sportifs un peu de haut niveau ski, quoi.
Alors, en fait...
C'est pas pour nous, ça,
Mélanie. Non, ça dépend.
En fait,
c'est sûr.
Finalement, ça a été développé notamment pour les professionnels du ski, les moniteurs, ça leur permet de
skier des heures, j'imagine.
De skier 10 heures d'affilée, quoi, en étant beaucoup moins gêné, moins douloureux.
On les achète en station de ski, ces trucs-là ?
Dans les stations de ski.
Ah, d'accord.
Dans les stations de ski, ça vaut à peu près le même prix qu'une orthèse articulée, mais c'est pas du tout remboursé.
Et ça diminue la douleur, la contrainte, c'est ça ?
Voilà.
Ce que vous appelez la contrainte, c'est l'endroit où il y a la douleur, quoi.
La force, oui, c'est le poids qui va sur le...
Qui fait mal, d'accord.
Et donc là, nous, j'aimerais bien aussi... On a une demande, vous savez, de plus en plus des patients d'un certain âge, mais qui sont sportifs, à qui on pose une prothèse de genou, et ils vous disent, on me pose une prothèse, mais moi, je veux reprendre la course, le ski, le golf.
Et pour eux aussi, c'est peut-être...
Peut-être que pour ces gens-là, ça pourrait être intéressant. Mais ça n'est que pour le ski. Ou alors, il faut faire du golf avec des chaussures de ski, c'est quand même beaucoup moins...
Alors, on va passer à la recherche à présent, au futur plutôt. Beaucoup d'équipes de chercheurs travaillent sur des techniques sur l'arthrose, pour apprendre à régénérer ces cartilages, cet os qui est perdu à cause de la maladie. C'est quoi aujourd'hui les pistes les plus prometteuses dans cette direction-là?
Alors aujourd'hui, les pistes les plus prometteuses, c'est probablement les thérapies qu'on va appeler tissulaires et cellulaires. En, En gros, c'est d'essayer soit de refabriquer du tissu avec des cellules, soit...
Du propre patient, de ses propres cellules.
Voilà, avec les propres cellules du patient.
Des cellules souches, quoi.
Et des cellules souches, par exemple. Et que l'on va essayer de prendre à des endroits où c'est le plus simple possible. Parce qu'on ne va pas faire des biopsies de moelle à tous les patients.
Ah non, c'est sûr.
Donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'équipes qui essayent de trouver des cellules souches, mésenchymateuses, hein, puisque le tissu articulaire, c'est du mésenchyme, et d'essayer de trouver un endroit assez facile pour les retrouver. Alors, il y en a dans le tissu synovial, on peut en retrouver au niveau de la bouche.
Et ça avance, ça sera repris dans 10 ans, on aura peut-être les fruits.
Une dizaine d'années. Ouais. Mais les cellules toutes seules, ça ne marche pas.
D'accord.
Il faut qu'il y ait en plus une espèce de, on va appeler ça une âme autour, il faut une espèce de tissu, comme de réceptacle, comme une maison. Sinon, si vous mettez juste vous injectez
les cellules souches, ça marche pas. Jimmy,
une autre piste de recherche serait de mettre au point des médicaments de longue durée d'action directement à l'intérieur du genou ou de la zone malade. Vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Oui, le dernier médicament qui a eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis ces 10 dernières années, c'est un médicament pas révolutionnaire, c'est un corticoïde, sauf que le laboratoire avait mis au point ce qu'on appelle un véhicule, hein, c'est une voiture, un véhicule pour permettre à ce médicament d'agir pendant non plus un mois ou 15 jours, mais d'agir pendant 8 mois, un an, 2 ans.
On fait l'injection et puis ça dure très longtemps dans le corps. Comme
et ça relargue le médicament. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec les nanotechnologies, on peut avoir ce genre de choses.
Ça existe, ça, déjà?
Ça peut être. En tout cas, il y a tout un tas de recherches dans ce domaine-là, non plus sur la molécule en elle-même, mais sur le véhicule de la molécule.
Mais en France, on n'a rien de tout ça pour l'instant.
Il y a des gens qui travaillent là-dessus.
Oui, mais on n'a rien à la disposition des patients, je veux dire.
Rien. Mais c'est sûr que c'est une autre voie et qui est très intéressante.
Vous, dans l'arthrose du dos, je sais que vous avez fait des travaux de recherche aussi. Vous avez mis au point un protocole nouveau aussi d'injection. Est-ce que vous nous expliquez rapidement de quoi il s'agit?
Alors, en deux mots, en fait, on a réussi à montrer que chez les gens qui ont mal au dos, il y en a entre 5 et, on va dire, 30% qui ont mal au dos à cause d'une lésion d'arthrose très, très particulière.
Sur les vertèbres, oui.
Qu'on détecte uniquement à l'IRM, qui n'existe pas chez des gens qui n'ont pas mal. Et on a montré qu'en allant mettre un corticoïde dans le disque,
directement,
on améliorait les patients. Le problème, exactement en parallèle avec ce qu'on disait avec mon collègue sur le genou, il y a un problème de demi-vie, c'est qu'au bout de 3 mois...
C'est déjà pas mal, si vous voulez.
C'est déjà pas mal, c'est des gens qui ont mal depuis 5-6 ans.
Oui, c'est clair.
Mais au bout de 3 mois, et donc aujourd'hui...
L'effet dure pas, mais 3 mois, c'est déjà bien.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous, on cherche, et notamment avec des fonds européens, on essaye de trouver un véhicule, et de tester un véhicule qui permette d'avoir une activité plus longue. Voilà.
Donc ça, c'est vos travaux. Merci beaucoup, professeur Ranou, d'être venu sur notre plateau.
Merci
grâce
beaucoup.
À vous, on en sait plus sur ce qui fonctionne ou pas dans le traitement de l'arthrose et aussi sur ce que nous réserve l'avenir. D'ici 10 ans, on devrait avoir de nouvelles armes à la disposition des malades.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé à ce qui est plutôt un gros bobo, évidemment, puisqu'on va faire un point sur ce que vous savez ou pas, des signes qui doivent faire penser à un AVC. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on est bien au-delà du bobo évidemment, puisqu'on a décidé de parler d'un sujet assez grave, l'AVC, et surtout les signes qui doivent y faire penser. Et justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, voir si vous les connaissez bien, ces signaux qui doivent donner l'alerte. On écoute son micro-trottoir.
Rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça?
Non, c'est un caillot, je crois.
L'accident... vasculaire, oui, cérébral.
Accident vasculaire cérébral.
Je crois qu'on a mal à la tête, derrière la tête.
Je crois qu'il y a des picotements dans un bras ou dans une partie du corps.
On sent qu'on est au ralenti, qu'on commence à avoir les paralysies, quoi.
Au niveau du vocabulaire, de l'expression orale, il y a quelques difficultés.
Il faut faire intervenir le SAMU tout de suite avec le 15.
Je pense que c'est rapidement fatal.
Il faut fluidifier le sang déjà pour éviter les caillots.
On peut ne pas fumer pour se prémunir, mais bon,
manger moins de graisse.
C'est lié aux personnes qui ne font pas beaucoup d'exercices.
Je pense que l'âge quand même a son importance.
On en meurt au bout d'un moment, ça peut aller de quelques heures à 10-12 heures je pense.
Bon, on voit que les gens, ils ont quelques connaissances sur ce que c'est un AVC, d'ailleurs que ça saigne ou pas, vous allez nous expliquer. Mais par contre, il y a des signes, donc on n'en a pas beaucoup entendu parler dans le micro-trottoir, mais quels sont les signes dans cet accident qui est l'AVC? C'est un peu comme l'infarctus, on est d'accord. La première chose qu'il faut savoir, c'est que chaque minute compte. Pardon.
Exactement, c'est une urgence. C'est environ 150 000 cas par an. C'est la troisième cause de mortalité en France, la première cause de handicap et la seconde cause de démence. Donc c'est pour vous dire que les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc c'est une partie du cerveau qui n'est plus oxygénée. Le sang ne passe pas, donc le sang se nécrose. Et il peut ne pas passer pour deux raisons. Soit vous avez un caillot qui se forme, c'est l'AVC ischémique.
D'accord.
Soit vous avez une hémorragie, car l'artère explose en quelque sorte. C'est l'AVC hémorragique.
C'est la rupture d'anévrisme en quelque sorte.
C'est une forme de rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau qui claque, donc c'est un AVC hémorragique. Et là, c'est effectivement une urgence absolue, parce qu'à chaque minute qui passe, votre cerveau n'est plus oxygéné et risque de ne jamais récupérer. Donc c'est une urgence absolue, donc dans ces cas-là, il n'y a pas 10 000 choses à faire.
Dans les 3 heures maximum, il faut se débrouiller.
Exactement,
pour être
parce qu'on peut faire quelque chose dans les 3 heures, au-delà, bien sûr, on patiente, mais globalement, la seule chose à faire, c'est d'appeler le 15.
D'accord, donc on appelle le 15, heureusement, donc, entre guillemets, heureusement, il y a quand même quelques signes qui peuvent donner l'alerte. Si on est, par exemple, témoin d'un AVC, quand on est, je ne sais pas, un repas de famille, ou autre, ou dans la rue, ou au travail, c'est quoi ces signes qui doivent nous dire, tiens, c'est peut-être un AVC?
Alors, ce n'est pas très compliqué. Mm-hmm. Tout déficit neurologique d'apparition brutale est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez l'impression que la main ne marche plus, c'est bizarre, elle est lourde, comme si je m'étais endormi dessus. Tiens, c'est bizarre.
Engourdi un peu.
Engourdi, exactement. Ça nous est tous arrivé de dormir sur notre bras et de se réveiller le bras engourdi. Et si on a ça dans la journée, ce n'est pas normal. Même chose au niveau de la jambe, c'est bizarre, j'arrive plus à marcher. J'ai des troubles de la vision. Ça aussi, ça peut être un signe d'AVC. J'ai des maux de tête d'apparition très brutale, c'est très douloureux. Et c'est soudain. J'ai des troubles pour parler, des troubles de l'élocution.
C'est bizarre, mots,
je cherche
pas,
mes mots. Ouais. Je sais que c'est un stylo, mais je n'arrive pas à le dire. Je dis n'importe quoi ou je dis ça ressemble à, et puis on bloque. On peut aussi demander aux gens de sourire. Faites un sourire et on se rend compte qu'on a la commissure labiale qui chute, c'est-à-dire qu'on a une asymétrie
du
visage.
Quoi, c'est ça,
et donc, globalement, retenez que tout signe neurologique d'apparition brutale, c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Et donc, encore une fois, j'insiste, on appelle le 15.
Oui, donc qu'on ressente d'ailleurs ces symptômes ou qu'on soit témoin, c'est-à-dire qu'on voit son papy, sa mamie, son conjoint.
On a des mauvais réflexes, on se dit, on va lui donner un verre d'eau, on va attendre, on dit, fait une sieste, prends un paracétamol, surtout pas, on n'attend pas que ça passe. On a des médecins régulateurs au téléphone qui sont là pour ça, pour trier.
Et qui vont vous envoyer dans un centre spécialisé en plus, pas n'importe où.
Vous avez une équipe médicalisée qui vient sur place et qui vous envoie directement, non pas aux urgences, parce qu'on a vu que chaque minute compte, mais en service de neurologie lorsqu'il y a une place,
là où
de
on
soins
débouche,
intensifs.
Là où on sait faire.
Là, on fait un examen, une IRM en urgence, et puis là où on peut déboucher les artères, donc soit on fait une thrombolyse, soit on éclate le caillot, donc bref, vous avez compris, appelez le 15.
Et on est d'accord si ces symptômes y passent, parce que ça peut tout d'un coup venir et puis repartir. Là aussi, il faut s'inquiéter quand
même.
Exactement,
ça s'appelle un accident ischémique transitoire. AIT. Attention, si ça passe, ça va revenir. Et on sait que le risque de récidive est très important dans le mois qui suit les symptômes. Donc même si vous n'avez plus de séquelles, tant mieux pour vous, mais il est urgent de consulter de la même façon. Donc encore une fois, on appelle le 15.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. On va parler de plaisir solitaire, faut-il s'inquiéter quand l'intensité de la sexualité est plus forte seule qu'à deux? Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on parle de sexualité, mais surtout de plaisir solitaire finalement, avec cette question de Nathalie, je vous la lis. Depuis l'enfance, j'ai découvert le plaisir de la masturbation, j'adore ça. En revanche, lorsque je fais l'amour avec mon partenaire, je ne parviens pas à ressentir le même niveau de jouissance, à moins que je ne me caresse en même temps. Est-ce normal? Alors Catherine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Nathalie? C'est courant ça d'ailleurs, les femmes qui n'arrivent pas à prendre du plaisir finalement en dehors de la masturbation?
Absolument, parce que la masturbation est une histoire entre soi et soi, avec un rythme que l'on se propose, avec des gestes que l'on connaît être efficaces. Faire l'amour avec l'autre, c'est une autre histoire, une toute autre histoire, avec un suspense permanent, puisque toute la relation se réinvente à chaque fois. Et évidemment, c'est sortir des codes appris et pratiqués en permanence.
Jimmy ?
Alors, ce n'est pas une question personnelle, mais est-ce que ça pourrait arriver chez les hommes ? Est-ce que les hommes peuvent avoir le même problème ? Un problème, je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'ailleurs.
Absolument, parce qu'il y a des hommes qui... Alors, le problème, c'est quand, évidemment, on souffre de ne pas arriver à faire quelque chose avec l'autre et que, finalement, l'autre est plutôt encombrant, puisque, finalement, avec moi tout seul ou moi toute seule, j'y arrive mieux et je m'amène là où je veux arriver. Donc, ça rend la relation triste, parce que, non pas parce qu'elle n'aboutit pas, parce que ce n'est pas grave, il y a d'autres choses qui peuvent aboutir, mais le sentiment qu'il n'y a rien qui émerge de ça. Et, effectivement, des hommes peuvent avoir du plaisir à la masturbation, mais sans encombrer de ce devoir de faire à l'autre, de ce devoir de pénétrer l'autre, le corps de l'autre, avec tout ce qui est peut-être un peu mystérieux, tout ce qui est peut-être anxiogène, alors que quand il maîtrise tout, le rythme, le fantasme, pas être dérangé par quelqu'un qui, parce qu'il respire, on l'entend et on le fait exister, alors que dans sa rêverie, on peut s'inventer n'importe quoi d'autre.
Et apparemment, Nathalie, elle a une grande expérience de la masturbation, c'est ce qu'elle nous écrit, mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'elle n'y arrivera jamais à deux, en fait, en tout cas pas avoir ce même plaisir si intense que tel qu'elle le décrit ?
Pas du tout. D'abord, il faut savoir que la masturbation, elle démarre en effet très jeune chez les enfants. C'est aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans que l'enfant découvre sa pulsion sexuelle. Et d'ailleurs, il en use et abuse très volontiers. C'est un moment d'exhibition de l'enfant. D'ailleurs, les pantalons des petits garçons, des pyjamas sont souvent très troués à cet endroit-là, puisqu'ils ne cessent de se caresser, sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, ça devient presque automatique. Pareil pour les petites filles. Donc évidemment, c'est un rituel qu'elle a gardé pour elle tout au long de ces années. La seule question, c'est que pour pouvoir passer à autre chose, c'est sortir justement de ce qu'elle connaît et oser l'aventure. Et ça fait un peu peur. Et c'est pour ça que nous sommes un petit peu enclins, les uns et les autres, à rester sur nos codes et nos acquis.
Jimmy ?
J'ai trouvé une image peut-être un peu bizarre. Si moi je saute un repas, j'ai un peu plus faim le repas d'après. Est-ce que Nathalie devrait peut-être ralentir un peu le rythme de la masturbation pour peut-être être un peu plus réceptive à la relation avec son homme ?
Alors déjà, le parallèle que vous faites est un parallèle amusant qui, évidemment, ne fonctionne pas exactement comme ça dans la sexualité. Mais les hommes ont tendance à penser que c'est la même chose. Donc l'appétit vient en mangeant, donc on va dire à madame d'y aller parce qu'elle va finir par avoir faim, ou on va priver madame pour qu'elle sera vorace. Bon, tout ça n'est
quel
pas...
Quel cliché, Jimmy.
Excusez-moi, voilà,
parce que y a tout ce
je
qui
suis
est...
qu'un homme.
Il y a tout ce qui est pulsionnel est nécessaire et vital pour le corps. La sexualité ne l'est pas. Elle l'est pour la procréation, mais elle ne l'est pas. Nous pouvons nous priver de sexualité toute notre vie sans pour autant que le corps le réclame, sauf notre envie de créer du lien avec l'autre. Mais en effet, si elle envahit tout son territoire par la masturbation, c'est aussi une façon de ne pas écouter le désir et la pulsion sexuelle. C'est avoir... J'ai un petit éveil, pouf, je réponds, tout de suite j'ai du plaisir et comme ça j'ai circonscrit la zone et l'humeur sexuelle et je ne laisse pas l'autre, la relation, venir perturber ou re-questionner ce sujet. Donc en ce sens, je vous rejoins, Jimmy, effectivement, ne pas occuper tout l'espace avec la masturbation est peut-être aussi une façon d'essayer de créer autre chose et dans le lien à l'autre.
Ouais, alors, je commence à être...
Des références culinaires dans la sexualité, pourquoi pas. Moi, je ne vais pas en faire, mais est-ce que finalement, pour Nathalie, le secret, c'est pas de... Vu qu'elle se connaît très très bien, puisqu'elle la pratique depuis longtemps, est-ce que finalement, elle ne pourrait pas juste guider son compagnon là où ça lui fait du bien, en fait, hein, tout simplement.
Oui, je crois que de toute façon, dans toutes nos relations sexuelles, nous avons à guider l'autre, mais pas guider à droite, à gauche, le siffler dans la bouche,
la carte
et
GPS.
Pas comme ça, voilà, Waze, etc. Donc, non, c'est évidemment pas comme ça, guider, c'est la façon que l'on a de se mouvoir physiquement, d'accompagner le mouvement, de se cambrer, d'accélérer le corps de l'autre. Ceci étant, on ne peut pas dire « fais comme je me fais à moi », parce que l'autre d'abord n'est pas dans le devoir d'appliquer exactement les choses, sinon il n'y a pas d'érotisme, l'érotisme est justement dans la surprise.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va parler de notre cerveau et de tous ces moments, sans qu'il soit malade du tout, où il nous joue des tours.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.